Alors la question que je pose aujourd'hui, hein, donc historien ou généalogiste, concernant donc ces chroniqueurs aragonais, elle s'inscrit dans un travail plus général consacré aux chroniqueurs d'Aragon du XVIe au XVIIIe siècle. Alors qui renvoie d'abord aux chroniqueurs officiels du royaume d'Aragon qui sont nommés par la députation du royaume, mais aussi aux chroniqueurs du roi pour la couronne d'Aragon. Hein, donc c'est ce groupe qui constitue le cœur de l'étude, mais on va voir que ces personnages en fait sont en interaction avec beaucoup d'autres et ça permet évidemment d'élargir le cercle. L'office de chroniqueur d'Aragon a été créé en 1547 lors de la réunion des Cortes réunies dans la ville de Monzón en présence du prince Philippe, le futur Philippe II. Et donc l'acte juridique est soigneusement déposé dans les archives de l'institution principale du royaume, qui est donc la députation. Et on peut y lire donc que le but de la création de cette fonction est d'éviter que le passé et les faits de gloire des Aragonais ne sombrent dans l'oubli. Ces chroniqueurs officiels, ils sont nommés donc par les députés. Le chroniqueur doit toujours être natif du royaume. Sa mission est clairement précisée. Il s'agit donc, je cite, d'écrire, de compiler et d'ordonner tous les faits notables survenus en Aragon, aussi bien dans le passé que dans le présent. Et dans la pratique, eh bien, les députés donnent des instructions aux chroniqueurs. Mais ils s'engagent aussi à leur ouvrir les archives du royaume et ils prennent en charge l'impression de leurs œuvres. Les chroniqueurs, eux, eh bien, doivent consacrer par leur discours la gloire de l'Aragon et éventuellement le défendre contre les médisances des plumes de royaumes rivaux ou ennemis. Ils remettent leurs textes à la députation, qui les examine avant de les donner à imprimer dans de somptueux volumes qu'elle diffuse dans l'Aragon et dans toute l'Espagne. Et par la suite, puisque évidemment, au fur et à mesure qu'il y a des nominations de chroniqueurs, les statuts vont se préciser, s'affiner. Il y a aussi une dimension extrêmement pragmatique et ductile en fonction des conflits, des rapports de force. Donc là, je n'entrerai pas dans le détail. Mais par la suite, donc, les chroniqueurs doivent déposer aux archives de la députation tous les documents amassés pour leur travail, ainsi que des cahiers où ils doivent consigner donc les événements de l'année en cours. Et outre le chroniqueur officiel, qui bénéficie de son titre à vie, eh bien, il y a des chroniqueurs honoraires qui sont parfois désignés, c'est pas systématique, et qui s'acquittent de commandes ponctuelles selon les besoins de l'actualité. Le premier chroniqueur est une figure qui est très connue, hein, il s'agit de Jerónimo Zurita, et il a marqué durablement les esprits par la rigueur et la puissance de son travail, qui l'ont imposé dans toute l'Europe comme un modèle, et qui le consacre en véritable figure tutélaire des chroniqueurs aragonais. Hein, Zurita, c'est une figure assez passionnante à étudier, c'est un infatigable voyageur, et il profite de ses nombreuses fonctions, notamment celle de secrétaire du roi, secrétaire du Saint-Office de l'Acquisition, et aussi de son immense réseau, alors un réseau qui est diplomatique, érudit, ecclésiastique, etc., pour collecter des livres, des documents d'archives et des papiers d'État qui formeront donc la base de ces monumentales annales que ces épigones devront poursuivre. Cette fonction de chroniqueur du royaume disparaît en 1708 lorsque le dernier représentant, qui s'appelle donc Pedro Miguel Samper, donc beaucoup moins connu, devient chroniqueur de Philippe V dans le contexte des décrets de la Nueva Planta qui abolissent les lois constitutionnelles aragonaises. Et ce qui est tout à fait significatif, hein, du déclin de la fonction, c'est que ce décret insiste surtout sur les fonctions d'archiviste de cette figure et pas du tout sur celle de chroniqueur. Alors, en réalité, au-delà des trajectoires d'une quinzaine d'individus, sur donc le presque 3 siècles, il s'agit avant tout d'établir un biais pour scruter un monde très vivant d'historiographes et de polygraphes qui regroupe l'ensemble de la monarchie polycentrique au gré d'interactions diverses, donc ça consiste de rapports de concurrence, d'émulation, de polémique, de coopération, de collaboration. Et par ailleurs, cette constellation d'acteurs participe de dispositifs de pouvoir et se trouve à la confluence de réseaux de diverses natures. Si je résume un peu les enjeux, en fait, il s'agit de faire, à travers une prosopographie, de construire finalement une histoire sociale de la circulation de l'information politique, juridique et érudite tout en s'interrogeant sur les savoirs politiques et historiographiques mis au service de diverses instances. Alors, il peut s'agir d'un royaume, l'Aragon en particulier, mais aussi donc de la monarchie, ou bien d'une ville, ou encore de coteries curiales, etc. Il s'agit également d'analyser les usages politiques et sociaux du passé dans une monarchie polycentrique, et plus largement, les rapports au passé et à la mémoire dans un corps social parfois déchiré, largement conflictuel et souvent en quête de consensus. Et donc, dans cette perspective, il m'a semblé que la question de la généalogie se situait au cœur de toutes ces dimensions. Et par ailleurs, ça permettait de m'inscrire dans la thématique du séminaire, n'est-ce pas, annuel, hein, puisque travailler donc sur des opérations généalogiques nous place d'abord sur le terrain de l'histoire sociale. Donc depuis quelques décennies, l'historiographie a mis en avant le pouvoir social de la généalogie, qui est un pouvoir d'exclusion et d'inclusion, bloquant ou favorisant l'ascension sociale. Et le cas espagnol apparaît particulièrement riche puisque, avec d'une part la promotion des statuts de la pureté de sang et d'autre part le poids des ordres militaires, eh bien, on peut dire que l'épreuve généalogique concerne l'ensemble de la population dans sa réalité la plus quotidienne. Démentant l'idéal fixiste défendu par l'ordre nobiliaire, l'examen en situation des dispositifs généalogiques montre que les preuves apportées devant les tribunaux reflètent, plus qu'une essence, l'aptitude des acteurs à mobiliser tant des ressources matérielles qu'un capital social, c'est-à-dire des réseaux. La force probatoire des discours sur l'ancestralité repose en fait sur une dynamique largement tautologique, dans la mesure où c'est le processus inquisitorial lui-même qui sécrète la limpieza et la noblesse. La formalisation et la publicisation de l'ancestralité par le biais de l'enquête constituent les piliers d'une procédure légitimante dont la réussite traduit l'insertion préalable dans des réseaux, l'appartenance ou l'admission tacite dans un groupe et en somme la réputation du candidat dont font état des chaînes de témoins dont une partie peut être stipendiée. Pour les mondes ibériques, on peut dire donc que la question, enfin l'intérêt pour la généalogie s'est donc déplacé et enrichi dans le sillage des études sur la noblesse et sur les nouveaux chrétiens. Il ne s'agit plus seulement de traquer les falsifications et autres contorsions de généalogistes peu scrupuleux au service de commanditaires en quête d'ascension, de consolidation ou bien de préservation d'un statut. Il ne s'agit plus non plus de déplorer l'instrumentalisation de preuves qui serait le symptôme d'une hypocrisie sociale généralisée. On a vraiment considérablement enrichi le questionnaire et on considère dorénavant la généalogie comme un type de cognition à part entière qui articule légitimation sociale, représentation de la parenté, système de transmission et construction des identités. De sorte que on appréhende maintenant la généalogie dans les rapports de contiguïté, de compagnonnage ou au contraire d'opposition que celle-ci entretient avec d'autres types de discours qui la confortent ou la décrédibilisent. Et c'est en partie le cas de l'histoire. Car si la matrice historiographique fait souvent place à des incises d'ordre généalogique, eh bien l'interpénétration des deux discours historiographiques et généalogiques est en réalité bien plus profonde, parce que c'est la conception même du temps qui est généalogique. La succession des dynasties fournit une trame où le lecteur suit les avatars des lignages princiers et de leur projection territoriale. Cet imaginaire ancestral alimente une conception patrimoniale de la monarchie qui met l'accent sur la transmission héréditaire et sur un agencement spécifique entre le groupe et l'individu où ce dernier incarne un lignage en le portant mais aussi en l'actualisant. Un tel modèle, qui est un modèle profondément continuiste, repose sur une croyance en la vérité de la tradition et confère au passé une valeur normative. Donc, lorsqu'on met en regard finalement ces régimes discursifs, une mise en regard qui est appelée finalement par un travail sur les opérations généalogiques réalisées par des chroniqueurs et des historiographes, eh bien, cela permet de faire éclater les contours génériques et cela nous invite également à parler plutôt de culture ou de matière généalogique, une matière qui est éminemment ductile et qui engage à la fois une opération de savoir et qui enclenche un dispositif de pouvoir. Par ailleurs, dans la perspective prosopographique qui est la mienne, Il est important de ne pas cloisonner les activités des chroniqueurs, car ils construisent leur trajectoire sociale en maniant la plume au service de divers commanditaires, et ils continuent sans cesse à exercer d'autres activités de plume dans le cadre ou à la lisière de leur office de chroniqueur. Et donc, il y a des interactions, des circulations, bien évidemment. Alors, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de donner 3 coups de projecteur sur ces pratiques à la fois scripturaires, sociales et politiques. Mais il y aurait plein d'autres pistes à explorer. Donc voilà, j'ai vraiment restreint le champ pour tenir à peu près dans le temps imparti. Alors, d'abord, je vais envisager la question en me plaçant dans le temps long, en scrutant le quotidien de mes chroniqueurs et leur travail intellectuel sur l'ensemble de leur trajectoire. Dans un second temps, j'aborderai le problème par le biais d'une conjoncture éditoriale, le moment de la parution du premier et du deuxième volet des annales du premier chroniqueur, hein, Jerónimo Zorita, donc en 1562 pour le premier volet et en 1578-79 pour le second volet. Et enfin, pour clore le triptyque, eh bien, je m'attacherai à analyser la circulation de l'information généalogique et ses effets en termes de construction et de consolidation de réseaux savants et politiques. Alors, quand on a une approche donc prosopographique, eh bien, on constate que quasiment tous les chroniqueurs du corpus, hein, donc je disais une quinzaine d'individus, tous donc se livrent à une activité de généalogiste sous des formes variées. L'opération généalogique, c'est une sorte de dénominateur commun, tout simplement. Les annales apparaissent d'abord comme une histoire des rois et des dynasties, hein, puisque le déroulé temporel, ça ne surprendra personne, correspond bien à cette matrice généalogique dont je parlais. Mais au-delà, eh bien, nos chroniqueurs sont d'avides lecteurs de généalogie, et surtout, c'est ça qui est intéressant, ce sont des lecteurs actifs. Ça veut dire qu'ils annotent et qu'ils complètent des volumes qui appartiennent à cette littérature. Un exemple, le Nobiliario de Pedro Garcés de Cariñena, qui est consacré à la noblesse d'Aragon. C'est un volume dont on consacre quelques exemplaires manuscrits, qui a été rédigé en 1397, donc par Pedro Garcés de Cariñena, qui est secrétaire du pape Benoît XIII, hein, Don Pedro de Luna, et qui est un des Aragonais à s'être signalé dans la défense du pape dans son château d'Avignon. Alors, on repère plusieurs exemplaires de ce nobiliaire qui comportent des notes de Jerónimo Zorita et de son successeur à la charge, Jerónimo Blancas, qui est donc lui juriste de formation. Ce sont des notes qui sont soit autographes, soit retranscrites par une tierce main qui signale dans ce cas la paternité des deux susnommés, hein, Zorita et Blancas, le cas échéant, et dont l'identité de cette tierce main est parfois précisée ou bien déductible par la prise en compte des conditions d'archivage de la documentation. Et alors, si on s'en tient à cet exemple, ce qui est intéressant, c'est de constituer la chaîne à travers les temps, eh bien, on a un avatar, en quelque sorte. En 1639, le chroniqueur aragonais, un des successeurs, Francisco Andrés de Ustaros, cherche à localiser l'exemplaire de Zorita, de ce fameux nobiliaire qu'il a copié de sa main, et sur les conseils de son ami Tamayo de Vargas, qui est lui chroniqueur du roi à Madrid, eh bien, il se rend à la chartreuse de l'Aula Dei, à qui Zorita avait légué ses papiers personnels, pour trouver donc le volume tant convoité, et on dispose effectivement de la copie d'Andrés de Ustaros, qui continue donc ce travail de copiste et de complément aussi de ses généalogies. La lecture active est en réalité un premier traitement de cette matière généalogique. Autrement dit, c'est le premier jalon pour l'élaboration d'un écrit de ce type. Car en parallèle, nos chroniqueurs accumulent du matériau généalogique. Hein, donc on peut identifier, c'est assez amusant à faire, dans les archives, des collections de documents réunis par certains de nos chroniqueurs qui mettent bout à bout, avec plus ou moins de sophistication, des notes extraites de nobiliaires ou des monographies généalogiques, des extraits de chroniques, des copies d'actes authentiques, donc testaments, contrats, lettres, etc. La transcription d'épitaphes et d'inscriptions figurant sur des stèles, etc., etc. Et il arrive qu'on puisse mettre directement en relation ce type de collection avec des commandes émanant de l'ordre nobiliaire, ce qui confirme bien que les recueils ainsi constitués sont en fait des dossiers préparatoires de travail. fort logiquement, les chroniqueurs sont sollicités pour rédiger des monographies généalogiques au service des puissants. Je reprends l'exemple de Francisco Andrés de Ustaros, qui réalise une généalogie de la Casa du Marqués de Torres, dont Luis Abarca de Bolea. À travers la correspondance que ce chroniqueur entretient avec son commanditaire, on perçoit l'investissement de ce dernier, qui donne vraiment la mesure, je trouve, de la force sociale de la généalogie. Le marquis lui envoie plusieurs missives depuis Bruxelles. On en répertorie 3 en 1639 et 3 en 1643. Donc, à plusieurs reprises, le marquis lui demande de faire un état des lieux de son enquête et il répète inlassablement qu'il met à sa disposition tous les papiers de famille dont il aura besoin. Pour surmonter les distances, hein, donc Bruxelles-Saragosse, eh bien, il fait de sa mère, de passage à Saragosse, un intermédiaire pour la remise des titres et des papiers à valeur probatoire. Il évoque même la possibilité que cette dernière lui communique les inscriptions figurant sur les portraits de la galerie de la demeure familiale. Il implique également son agent, Felipe Giner, pour puiser dans les archives familiales le nécessaire à la confection de la précieuse généalogie. Et non content de faciliter l'enquête, le marquis lui fait miroiter la prompte acquisition de volumes en français ou en latin qu'il s'engage à lui expédier depuis Bruxelles. Enfin, il achète des ouvrages peu accessibles sur lesquels Andrés de Ustaros compte s'appuyer pour son enquête et désespère parfois d'y parvenir. Hein, par exemple, il n'arrive pas à mettre la main sur un livre consacré au Landgrave de Hesse, dont on lui a confirmé qu'il pourrait le trouver en Allemagne. Donc le marquis promet que s'il réussit, il les ferait traduire en espagnol et qu'il les ferait transmettre aux chroniqueurs en redisant une fois de plus l'importance du service rendu, hein, la merced que con ello me hace. Et le mémoire est finalement publié à Saragosse en 1644. Alors, du traité aux mémoires et aux documents judiciaires, la généalogie est une matière qui peut revêtir diverses formes. Jerónimo Blancas et Francisco Andrés de Ustaros ont ainsi rédigé des livres de blasons nobiliaires. On ne compte plus les arbres généalogiques élaborés par Pellicer. Et par ailleurs, les préfaces de certains ouvrages s'apparentent à des notices généalogiques qui retracent le glorieux lignage d'un commanditaire ou d'un illustre personnage à qui l'on dédie l'opus pour consolider des liens de patronage et de protection. Dans cette veine, Francisco Andrés Ustaros, mais surtout José Pellicer et Francisco Jiménez de Urrea se sont bien illustrés. En somme, la conception généalogique de l'ancestralité la promeut en matrice qui informe le rapport des individus au temps, la façon dont chacun se projette dans le passé et le futur et modèle son identité sociale à la jonction de sa propre trajectoire et de son groupe d'appartenance. Cette matrice généalogique qui entrelace royaume, dynastie, lignage et individu ne peut donc que conditionner le regard et la réception des écrits historiographiques dans l'ensemble du corps social. Autrement dit, la généalogie est à la fois une culture et un modèle de pensée, de sorte que les publications des chroniqueurs sont lues à travers ce prisme. Et du coup, évidemment, on ne va pas s'étonner à ce que les archives fourmillent d'amas documentaires révélant des modes de lecture généalogique appliqués aux travaux des chroniqueurs. Et on ne s'étonnera pas non plus de débusquer des concrétions scripturaires nées de l'exploitation et du réagencement d'une matière généalogique extraite des écrits de nos chroniqueurs. Donc là, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais on pourrait donner plein d'exemples. Alors, cette donnée était parfaitement consciente et intégrée dans la mesure où elle répondait à une demande forte sociale. Les propos d'un autre chroniqueur, Francisco Diego de Sayas, dans sa profession de foi à la députation, lorsqu'il entre en charge en 1653, le montre bien. Donc tout feu, tout flamme, hein, et tout content d'être élu, donc Sayas énumère un ambitieux programme, et il clôt ce programme par, c'est ça qui nous intéresse, la promesse solennelle d'illustrer un si grand nombre d'excellentes familles, les unes filles ou alliées des familles royales et d'autres appartenant au premier rang de la noblesse. Alors, je n'ai pas le temps malheureusement de vous citer le texte, mais il est vraiment très intéressant, puis il est très grandiloquent, avec plein de points d'exclamation partout, enfin voilà. En tout cas, le futur chroniqueur présente son travail de plume et l'opération généalogique, hein, il emploie le mot généalogica plein de fois, comme la meilleure façon de glorifier la haute noblesse, hein, señores y próceres, mais également les hidalgos et tous ceux qui se sont distingués lors de la Reconquista, donc dans leur ensemble, mais aussi en détachant certaines individualités qui se seraient particulièrement distinguées. Et Diego de Sayas de rappeler que ce miroir scripturaire qu'il tend aux Aragonais rehaussera la gloire du souverain ayant régné sur de tels sujets, la rhétorique évidemment bien connue. Il suggère donc, ça il faut, on pourrait mieux le montrer vraiment en citant le texte, mais je n'ai pas le temps, ce qui nous importe ici, c'est qu'il suggère que les écrits historiographiques d'un royaume retracent l'épopée d'une dynastie, mais surtout qu'ils constituent un nobiliaire. Cette conception nous renvoie aux travaux d'Esteban de Garibay pour la Galice. Hein, on retrouve ce procédé où effectivement la territorialisation d'une histoire fait que c'est également aussi un nobiliaire. Et surtout, ce discours nous offre une grille de lecture opératoire pour étudier une conjoncture éditoriale spécifique, donc celle de la parution des deux premiers tomes des Annales de Zurita, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1562 et en 1578-79. Alors, peut-on lire donc ces annales comme un nobiliaire ? Alors, donc c'est le second point de mon exposé. Donc, lorsqu'on regarde l'ensemble de la correspondance du premier chroniqueur, Jerónimo Zurita, une correspondance qui est extrêmement riche, eh bien, on peut identifier des massifs épistolaires qui traitent spécifiquement de la parution des annales et qui concrétisent une réaction face à cette publication. Zurita fait jouer ses réseaux pour obtenir des informations généalogiques manquantes afin de les intégrer dans ses écrits lorsque la parution devient imminente. Il double la... Enfin, il le fait tout le temps, mais quand la parution s'approche, il accélère la machine, évidemment. Donc, outre les réponses obtenues dont on garde la trace, le chroniqueur reçoit des missives spontanées de la part d'individus qui veulent inscrire la mémoire de leur lignage dans cette histoire officielle en train de s'écrire. Ou bien il reçoit aussi des lettres de personnes mécontentes du traitement réservé à leurs ancêtres et à leur parentèle dans les annales. Donc ça, c'est en général après la première édition, enfin les premiers volumes, voilà. Ou alors juste après la deuxième édition. Donc les cas de figure sont en fait extrêmement variés et mis en regard, ils nous offrent en fait une sorte de conservatoire des politiques de mémoire de la noblesse, grande et petite, bien établie ou en mal de reconnaissance. Donc là aussi, je vais faire des choix parce que ouais, on pourrait vraiment y passer beaucoup de temps. Donc je vais vous donner aussi trois exemples. Alors d'abord, le comte de Chinchon. Le deuxième comte de Chinchon, écrit donc à Zurita, et il lui dit donc tout son intérêt pour les annales d'Aragon, et sa volonté, alors là aussi la rhétorique est bien connue, ça prépare le terrain, sa volonté donc que son histoire, ses annales, son histoire soient bien fournies et pleines de vérité. Très louable, mais toutefois donc, il se lamente de ne pouvoir lui envoyer de papier de famille. Alors, il explique, là c'est pas une échappatoire, il l'explique par le fait que tous les documents importants se trouvent dans l'archive du marquisat de Moya, dont a hérité le fils aîné de son grand-père, Andrés de Cabrera, alors que lui-même descend du Puiné. Donc c'est juste voilà une histoire de répartition des archives familiales, et du coup il peut pas mettre la main sur ce qui intéresserait finalement Zurita. Il ne s'avoue pas vaincu pour autant, et il propose de voir ce qu'il peut trouver donc à Escalona, où il y a encore des papiers de famille qui sont entreposés. Enfin, il dit l'importance qu'il attache à ce qu'on éclaire le règne du roi de Castille et dont Henri IV, Enrique IV, Trastamare, car, estime-t-il, les chroniques fournissent peu d'éléments en la matière. Alors, en réalité, ce qui est important de voir, en fait, c'est que, évidemment, c'est une période tourmentée de guerre civile où le souverain fait face à une ligue de la noblesse, donc je résume, qui soutient son demi-frère Alphonse, décédé prématurément, puis sa demi-sœur Isabelle contre l'héritière en titre, Jeanne de Castille. Donc c'est un moment où la société est complètement déchirée et qui a favorisé les récits contradictoires. Donc dans ce contexte, Chinchon pense que la mémoire du premier marquis de Moya, Andrés de Cabrera, donc son grand-père, qui a été donc mayordomo du roi, alcaïde de l'Alcázar de Segovia et chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, a été donc que cette mémoire a été écornée ou insuffisamment mise en valeur. Donc ça évidemment la lettre ne le dit pas. Là c'est un travail qu'il faut que je continue à creuser, mais j'ai trouvé un ouvrage extrêmement intéressant de 1677 qui permet un petit peu de clarifier des enjeux autour de cette mémoire du comte de Chinchon. C'est justement un ouvrage qui s'appelle Retrato del buen vasallo copiado de la vida de Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya, qui retrace donc la vie du marqués de Moya. Je vais quand même juste vous lire le passage, c'est le prologue. de l'auteur, donc qui évoque justement cette période de guerre civile extrêmement complexe. Et donc il dit: con esta ocasión se dividieron también los cronistas y no fue menor la batalla de las plumas que la contienda de las armas, escribiendo cada uno de los sucesos como vinieron mejor a su partido, contrarios unos con otros y a veces consigo mismos. Y como a nada se atendiese menos que al examen de la verdad, sobre fundamentos mal averiguados como sobre principios infalibles, procuraban a Porfia apoyar la parte que pretendían tuviese crédito de más justificada. Y aunque dejando correr el estilo con tanta disolución y osadía, no se perdonaron la fama de los reyes y otros varones grandes, ninguno se atrevió a poner nota en la persona y crédito de don Andrés de Cabrera, se sujeta a verificar, ¿no es va? Ni en sus hechos, privilegio singular de su virtud y seguro argumento de ella, no faltó quien, con poca atención, participó a otros la gloria de las hazañas en que solo tuvo parte, ni quien, con malicioso artificio, las procurase disimular. Voilà, donc on voit justement, hein, si en 1677 on écrit ce type de choses, c'est que le comte de Chinchon souhaitait voir redorer un petit peu le destin de son ancêtre. Plus heureux semble donc, là je continue ma galerie d'exemples, plus heureux donc semble le seigneur de Montoro, de la puissante famille des Ram d'Alcañiz, qui a écrit à Sorita à deux reprises sur des thèmes généalogiques peu avant la parution du second tome des Annales, donc en 1577. Il répond à des questions précises du chroniqueur qui cherche des informations sur le cardinal Domingo Ram, qui fut un des 9 juges du compromis de Castres de 1412, qui a permis donc de nommer le successeur du roi Don Martín, là aussi afin d'éviter que la péninsule ne sombre dans la guerre civile. Alors, l'épistolier envoie à Sorita depuis Alcañiz un arbre généalogique afin qu'il visualise tous les liens de parenté et fasse rejaillir la bonne renommée du cardinal sur l'ensemble du lignage. Il explicite les conditions de réalisation de cet artefact cognitif pour lui conférer une valeur probatoire inébranlable. Donc, élaboré dans le cadre d'une enquête de pureté de sang visant à intégrer la confrérie de Notre-Dame du Pilar de Saragosse, la réalisation de l'arbre s'appuie, affirme-t-il, sur des actes authentiques. Et on voit ici que vérité juridique, vérité historiographique et vérité généalogique s'identifient. Alors, je dois passer un peu plus vite. Dernier exemple qui contraste avec les précédents. L'interlocuteur de Sorita, José Alfonso de Milán, se laisse aller à son dépit. Il a eu vent que Sorita menait des recherches historiographiques dans le royaume de Valence, dont il est natif, et qu'il amassait des documents sur la famille Borja et Milán. Il lui reproche de s'être contenté des archives entreposées dans l'église, la plus grande église de Jativa, et il clame: je vous supplie, dans l'hypothèse où vous voudriez écrire quelque chose sur ma maison et mon lignage, de veiller à rassembler assez d'informations par le truchement de privilèges authentiques et d'actes publics, et sinon, dispensez-vous-en. Que lo deje en el tintero, sur une formule bien connue. Alors, il craint que son ascendance n'apparaisse tronquée, présentant comme débutant avec le pape Calixte III, dont la sœur Catalina de Borja avait épousé un Milan, alors que selon lui, il faudrait remonter à Jaime Ier le Conquérant, secondé dans sa geste militaire par deux valeureux cavaliers catalans, Ramon et Hugo de Milan. Il retranscrit alors toute sa descendance, il y en a plusieurs pages, assez illisibles je dois dire, mais bon, j'y suis finalement parvenue. Donc il retranscrit toute la descendance en faisant miroiter un riche corpus de privilèges et d'actes authentiques, et en signalant donc les alliances les plus prestigieuses. Il reprend la plume un peu après en surenchérissant. Cette fois-ci, il affirme que Sorita a été mal informée lors de son déplacement à Jativa. Il se plaint que sa maison apparaisse comme la plus déshéritée du royaume. Donc selon lui, il faut corriger la deuxième partie des annales qui est alors en cours d'impression. Et il complète l'histoire de son lignage en fournissant d'autres preuves. Donc je passe. Mais outre la mention de fausses informations, l'épistolier donc laisse planer le doute sur d'autres maisons du royaume. Ceci suggère une forte conflictivité locale, donc ça c'est à creuser. Hein, et c'est ainsi qu'il affirme que jamais sur une période de 300 ans, ses ancêtres ne cessèrent de posséder le titre de seigneur de vasallo avec la juridiction suprême afférente, sans qu'on ne trouve de bâtardise ni d'autres tâches qu'il faille passer sous silence. À bon entendeur, salut. Enfin, mais là on voit qu'il est très très motivé, il donne rendez-vous à Zurita au Cortes de Monzón, qui vont bientôt se tenir, où il promet d'apporter les actes publics nécessaires aux retouches de la chronique. Il semble vraiment prêt à tout pour défendre sa mémoire familiale, et il ajoute que si jamais ces informations arrivaient trop tard pour être intégrées dans les annales, et que certains cahiers étaient déjà imprimés mentionnant son lignage, eh bien il fallait absolument les détruire, et qu'en conséquence, il paierait les frais de réimpression en dédommagement. Donc, vous voyez que les interlocuteurs de Zurita ne ménagent pas leurs efforts et qu'ils s'investissent pleinement dans les échanges de la matière généalogique qui s'intègrent opportunément dans des stratégies mémorielles multiformes à la fortune diverse. Le dispositif alimente d'importants flux depuis tous les points de la péninsule et au-delà. L'investissement est à la hauteur des enjeux, car l'autorité et la notoriété de Zurita permettent de valider les informations dispensées, de les publiciser dans une histoire officielle et d'en faire le socle d'une mémoire commune. Car la matière généalogique circule intensément à travers les jeux de citations et de notes. Zurita est tout de suite cité dans les nobiliaires d'Aragon et d'Espagne et les ouvrages de compilation. Les annales constituent une œuvre de référence destinée à édifier le socle d'une tradition. Je passe donc à mon dernier point. Pour terminer, je voudrais analyser la circulation de l'information généalogique et ses effets en termes de construction et de consolidation de réseaux savants et politiques. Et je le ferai donc à partir d'un exemple. La correspondance entre le chroniqueur Francisco Andrés de Ustaros et le fidalgo portugais Jerónimo Mascareñas. Alors, Mascareñas donc est issu d'une illustre famille portugaise. Il est docteur en théologie de l'université de Coimbra. Il embrasse la cause de Philippe IV en 1640 et il s'exile à Madrid où il assure une brillante carrière politique de letrado au plus près du pouvoir. En 1641, il devient chevalier de l'ordre de Calatrava, sumiller de Cortina, membre du Conseil des Ordres et du Conseil du Portugal. Et plus tard, il sera donc le tuteur du futur Charles II et finit donc évêque de Ségovie en 1668. Mascareñas est aussi un homme de plume, hein, c'est un auteur d'ouvrages historiographiques, encomiastiques et généalogiques. C'est un papivore, un polygraphe, qui est à la confluence de divers réseaux, encore une fois, donc portugais, castillan, réseau curial, réseau institutionnel, parentélaire, ecclésiastique. Donc, il cumule et il peut aisément thésauriser des informations diversifiées sur des supports variés. Et on peut même dire, d'ailleurs, que c'est un professionnel de l'information. Lui et son frère parviennent, en 1640, à reconstruire des circuits de fidélité qui avaient été court-circuités par le début de la Restauration portugaise, en mettant à profit la masse des papiers qu'il a rapportés du Portugal et puis ceux qu'il amasse inlassablement au quotidien. Il se convertit en fait peu à peu en courtier de l'information, en particulier généalogique, en fournissant le support documentaire et l'autorité nécessaire pour tous les mémoires que les fidalgos adressent à Philippe IV pour défendre leurs droits de propriété, lancer des procès contre les parents traîtres au roi catholique. Hein, la famille de Mascareñas c'est elle-même coupée en deux, hein, une partie qui reste au Portugal et l'autre qui va à Madrid. Hein, ou bien pour faire étalage de leur mérite et de leur fidélité. Hein, puisque c'est la première chose qu'ils mettent en avant, c'est leur fidélité afin d'obtenir des avantages. Et c'est vrai que Philippe IV les accueille très généreusement. Donc du coup, vous voyez que le passage pour un Mascareñas qui lui a toute cette masse documentaire, qui peut ou bien il témoigne aussi, il se porte témoin. Hein, donc il a un capital symbolique, scripturaire, symbolique et social absolument gigantesque. Bon. Et donc certaines généalogies sont rédigées en grande partie grâce à la manne scripturaire de Mascareñas. Hein, on peut citer par exemple celle de son neveu Antonio Suárez de Alarcón, Relaciones genealógicas de la Casa de los Marqueses de Trocifal, Condes de Torres Vedras, de 1656. Alors, j'en viens donc à l'échange à proprement parler entre cette figure sémillante Mascareñas et puis donc Francisco de Ustaros. Alors, il est attiré par la réputation et le statut de chroniqueur officiel d'Andrés de Ustaros et partant de sa capacité à obtenir des informations peu accessibles, notamment les archives de la députation. Mascareñas prend l'initiative d'une correspondance épistolaire qui illustre bien comment la lettre devient le support d'un espace de sociabilité. Hein, donc le Fidalgo provoque l'échange en offrant à son interlocuteur des livres de son cru traitant de l'ordre militaire de Calatrava, hein, il appartient à cet ordre, et il montre aussi ainsi sa confiance et signale la compétence qu'il octroie donc au chroniqueur en matière de jugement historiographique et généalogique. La réponse donc de Andrés de Ustaros ne se fait d'ailleurs pas attendre, hein, puisque notre Aragonais soumet à l'expertise de Mascareñas un mémoire traitant du baptême de l'enfant Don Carlos. Il se trouve que les parents de l'enfant étaient tous portugais. Et du coup, Andrés de Ustaros souhaite que Mascareñas valide ou complète l'information, ce qu'il ne manque pas de faire. Et donc, Mascareñas corrige et enrichit ainsi les notices généalogiques de cette galerie de personnages. Il reprend d'ailleurs les travaux de Zurita et du chroniqueur royal Cabrera de Córdoba sur cette question. Et donc, c'est le début d'un échange d'informations généalogiques où Andrés de Ustaros devient en fait le correspondant aragonais de Mascareñas, qui à son tour devient le correspondant portugais de notre chroniqueur. Et d'ailleurs, Mascareñas lui dit, le presse, de le solliciter à chaque fois qu'il aura besoin d'informations concernant le Portugal. Et puis, bien sûr, ça lui ouvre les réseaux de Mascareñas. Dans cette perspective, donc, Mascareñas obtient d'Andrés de Ustaros des éléments sur le lignage aragonais des Casiblanques et de précieux renseignements sur tous les Aragonais présents au Concile de Trente. Puisque, d'après Mascareñas, il y a beaucoup de figures, en fait, qui n'ont pas été consignées dans les témoignages. Il y a aussi beaucoup d'Aragonais qui sont retournés par la suite en Espagne, d'autres qui sont restés en Italie, etc. Et on peut subodorer, en tout cas, que pour répondre à ces questions, Mascareñas peut se servir... Andrés de Ustaros peut utiliser la correspondance de Zurita, qui était lui-même en relation avec des Aragonais qui étaient présents au Concile de Trente à l'époque. Donc on voit aussi, encore une fois, la chaîne des temps, et puis l'effet de cumul de toute cette masse d'informations. Alors, au-delà de la dimension érudite et de la construction collective des savoirs, cette correspondance renvoie à des enjeux sociaux propres aux polygraphes qui font carrière à l'ombre des arcana imperii. Par ses apports, Mascareñas intègre sous son meilleur jour l'histoire portugaise dans des écrits aragonais officiels, forts de leur autorité et de leur diffusion dans l'ensemble de la monarchie. Il en profite d'ailleurs pour placer l'histoire de son lignage, puisque dans le groupe de parrains de l'enfant, il y a une certaine Doña Leonora Mascareñas, et donc du coup voilà, il fournit une généalogie très très détaillée, espérant du coup qu'elle soit transmise, hein, dans ce patrimoine aragonais. Et quand je disais qu'il place aussi l'histoire du Portugal sous son meilleur jour, il va vanter aussi l'attachement de Philippe II pour les Portugais, enfin voilà, il y a un laïus là-dessus. Mais réciproquement, Mascareñas, et c'est là qu'on voit que c'est un vrai professionnel de l'information, c'est que il va vendre ces informations en les valorisant, en expliquant l'air de rien tous les avantages à ce qu'Andrés de Ustaros puisse en bénéficier. Enfin, il en fait ressortir le prix. Donc, il lui garantit d'abord la primeur, la précision et la fiabilité de ces informations susceptibles de lui assurer une grande crédibilité auprès du lectorat portugais. Hein, en gros, il lui ouvre le marché portugais. Évoquant les notices généalogiques des parrains portugais de Don Carlos, enrichis par ses soins, il écrit, donc là j'ai traduit, que celles-ci suffisent à créditer vos écrits auprès des Portugais. Car, constatant qu'à propos d'un royaume étranger, votre discours s'appuie sur des informations si justes et si vérifiées, ils se feront une idée de la robustesse et des précautions avec laquelle vous écrivez sur votre propre royaume. Il insiste aussi sur la valeur du matériau qu'il lui fournit, en lui affirmant avoir été à Simancas pour mieux le renseigner sur les dames portugaises qui accompagnèrent l'impératrice, etc., etc. Donc évidemment, bon là je ne vais pas m'étendre sur la question, mais avoir accès aux archives de Simancas est un parcours du combattant. Hein. Et puis, donc du coup, voilà, c'est aussi le gage d'avoir accès à des informations qui sont entreposées dans le sein des saints. Hein. Et nos chroniqueurs aragonais, d'ailleurs, à ce moment-là, Francisco de Ustaros fait des pétitions et des suppliques pour essayer d'accéder aux archives de Simancas. Donc là, c'est un autre aspect sur lequel je travaille. Et plusieurs chroniqueurs, donc il y en aura un qui va finalement y aller, mais qui va être frustré dans ses ambitions parce qu'il pourrait rester que quelques semaines, parce que la députation le le rappel. Enfin bon, il y a tout un mécanisme aussi d'entre gens, de pour se faire introduire dans ces lieux, qui est tout à fait complexe et fascinant à étudier. Donc en tout cas, là, voilà, ce que fait miroiter Mascalegna, c'est l'accès à une documentation très difficile d'accès, d'autant que le gardien, la famille des Ayala, qui a patrimonialisé la charge d'archiviste, eh bien, est très jaloux de cette prérogative et rend très compliqué l'accès à ce temple de l'information politique. Donc voilà, en tout cas, c'est pour vous faire sentir un petit peu la façon dont Mascarenhas met en valeur aussi les informations, puisque lui, pour le coup, que je vous ai dit, est dans plusieurs conseils de la monarchie et qu'il est un proche de Philippe IV. Et par ailleurs, autre élément qui permet aussi de renforcer les liens, hein, c'est de lui transmettre des informations qu'il va publier dans ses propres travaux, mais qui n'ont pas encore été publiées, hein, donc en lui offrant en quelque sorte la primeur de la récolte, qui est un gage suprême de confiance. Il lui demande malgré tout quand même de signaler ici d'où proviennent ces informations, parce qu'il ne peut pas se voir usurper de l'autorialité de cette source, hein, mais en tout cas voilà, c'est quand même un gage de confiance puisque ces informations ne sont pas encore publiées. Donc on voit au fur et à mesure, là je dois faire court, mais on voit vraiment finalement comment la circulation de la matière généalogique, hein, puisque c'est ça l'enjeu de départ, entre deux professionnels de l'information, crée du lien, complète des réseaux savants et politiques qui sont puissamment imbriqués. Voilà, donc je voulais, j'achève, hein, je voulais juste vous montrer un petit peu ces différentes facettes, hein, finalement, pour appréhender le matériau généalogique, hein, pour montrer qu'on pouvait vraiment faire une histoire sociale et politique de la construction des savoirs, à travers donc différents biais, hein, c'est, à la fois donc les correspondances, mais aussi en étudiant les collections factices qu'on peut trouver dans les bibliothèques et les archives, mais également en travaillant aussi sur des conjonctures éditoriales qui permettent là aussi de mettre en perspective différents rapports de construction de la noblesse, de la mémoire, pardon, par une noblesse qui est finalement assez bigarrée. Voilà.